bientôt avoir terminé l'école. Hermana Argelia, la hermana, que Dios la bendiga, la hermana Patricia trató de llamarla ayer para confirmar su inscripción, pero dice que no había respuesta y después la línea sonará como ocupada. Pero la hermana Patricia trató de llamarla ayer. Mais les différentes formats existent. Il existe des éclipses solaires, il existe des éclipses lunaires. Il y en a même d'autres versions. Donc je ne sais pas c'est laquelle qu'il y avait aujourd'hui. Alors Jane, je suis content de pas avoir eu la berlue. Donc effectivement, la luminosité semblait étincelante. Vraiment, c'était plus fort que d'habitude, il me semble. Bonjour Rachel, que Dieu te bénisse. Bien le bonjour aux sœurs qui se connectent avec toi. Donc Ocilia, pas Ocilia, oui Ocilia, Mona, Chantal. Ah Thérèse, je suis aussi une personne d'habitude. J'ai mes petits train-train dans lesquels j'aime bien me confiner. On dit que l'homme est un homme, est un être d'habitude. Il y en a qui le sont un peu plus que d'autres et je crois que je le suis un peu plus que d'autres, effectivement. Et ça ne me dérange pas beaucoup. En fait, les gens savent à quoi s'en tenir avec moi puisque j'ai des habitudes. Bonjour Didier. Bonjour Julie, bienvenue parmi nous, que Dieu vous bénisse. Bonjour mon poète, Dieu te bénisse. Alors toi aussi, le parcours vers l'école est bientôt terminé puisque les enfants seront bientôt en vacances. Alors juste avant qu'on débute, on vous rappelle les inscriptions pour l'assemblée de dimanche. On est déjà rendu aux trois quarts des inscriptions ce matin. On a dépassé le cap des 75 inscriptions, ce qui me réjouit énormément. Donc il reste 25 places. Donc, ne tardez pas si vous voulez être là à l'assemblée de ce dimanche. Il reste 25 places. La première phase des appels de confirmation ont déjà été faits. C'était hier, c'était la sœur Patricia qui le faisait. Et c'est ma mère qui va faire le restant demain. Donc, tous ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas encore reçu d'appel, certainement c'est parce que vous vous êtes inscrit après midi. Hier, parce que c'est à midi que j'ai envoyé donc la liste des inscriptions à la sœur Patricia et elle a fait donc toutes les inscriptions qui étaient entrées avant midi hier. Donc toutes les autres inscriptions vont être confirmées par ma mère demain en fin de matinée, je suppose, ou en début d'après-midi. Donc vous dire qu'il reste 25 places. Pour vous inscrire, il faut être âgé de plus de 8 ans. Donc l'année dernière, on bloquait à partir de 12 ans. Là, on s'est dit, on veut aider un peu les petites familles à pouvoir venir à l'église. Donc on descend la norme à l'âge de 8 ans. Donc toute personne âgée de 8 ans et plus peut assister à l'assemblée de dimanche matin. Pour ce faire, vous appelez au secrétariat de l'église, vous laissez un message sur le répondeur en donnant votre nom complet et le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent. Et de surcroît à ça, vous nous laissez bien entendu votre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi le faire par courriel. À ce moment-là, vous écrivez au courriel de l'Église, secrétariat EAJC à commercial@gmail.com. Je répète, secrétariat EAJC en un seul mot, pas d'accent. À commercial@gmail.com et là encore vous nous laissez votre nom complet, le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent qui ont plus de 8 ans, 8 ans et plus en fait. Et puis voilà, il reste 25 places donc ne tardez pas, on sera peut-être obligé de refuser certaines personnes cette semaine. Alors, ceci étant dit, on va prier pour débuter et puis après ça, on passe dans l'étude de ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui d'être unis avec nos frères et nos sœurs pour écouter, étudier et puis méditer sur ta parole. Celle-ci, Seigneur, nous remplit, celle-ci nous abreuve, celle-ci nous nourrit, celle-ci nous apporte tout ce qui nous est nécessaire pour mener une vie que nous voulons agréable à ton regard et que nous voulons utile pour l'avancement de ton royaume. Alors ce matin, tu as encore une parole que tu as préparée de toute éternité pour nous. Tu as encore, Seigneur, un message à nous communiquer. Nous prions, Seigneur, que notre entendement soit ouvert pour recevoir cette parole, que notre cœur soit disposé à entendre ta voix, comme on l'a dit hier, qu'on soit avide d'entendre ta voix et de recevoir des instructions de ta part, mais que ces instructions ne soient pas comme lettres mortes à la poste, mais que ces instructions reçoivent l'accueil qui se doit, mais aussi la réponse qui se doit. Une réponse qui te dit non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alors parle-nous, instruis-nous, et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans ton précieux nom, le nom le plus élevé, le plus glorieux qui soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je lis pour vous le passage, toujours dans Habacuc au chapitre 2, le verset 1. Habacuc chapitre 2, verset 1, qui nous dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Je répète, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Et on étudie ce matin donc la dernière partie de ce verset et ce que je répliquerais après ma plainte. Tout au long de cette semaine, la thématique que nous avons abordée et qui avait été initiée, bien entendu, par le pasteur André Bernard ce dimanche lors de la prédication, c'était être à son poste, et si on veut le personnaliser un peu mieux, pour que ça vienne nous chauffer un peu plus, être à mon poste. Et la grande question, es-tu à ton poste? Suis-je à mon poste? Et tout au long de cette semaine, on a vu donc ce que voulait dire être à son poste. Toujours lié avec le service qu'on doit rendre à Dieu, lié avec l'attitude qu'on doit avoir dans l'exercice de notre service, donc être à l'endroit, être en train de faire le travail. Et hier, on a abordé la question d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Quand on sert le Seigneur, il est important de s'assurer tout au long de ce service, que nous sommes effectivement dans la volonté de notre Maître, de notre Seigneur, dans la volonté de celui qui nous fait travailler ou qui nous envoie au travail pour recevoir de lui toutes les indications nécessaires. Alors à l'occasion, comme on l'a vu hier, ce sont des encouragements. Oui, le Seigneur nous encourage et c'est une merveilleuse chose. À l'occasion, c'est aussi des directives pour nous laisser savoir comment faire le travail à venir devant nous. Parfois, c'est pour nous laisser savoir le travail qui est à exécuter sur le moment présent. Mais à d'autres occasions, c'est aussi une parole qui nous vient, qui est un peu moins agréable, qui peut être à l'occasion soit un constat négatif par rapport au travail qu'on a fait, parfois être un jugement par rapport à notre travail. Dieu qui dit, ben vous n'êtes pas en train de faire ce que je veux que vous fassiez, ou tu n'es pas en train de faire ce que je veux que tu fasses. Alors, oui, le Seigneur nous pousse, nous motive, nous encourage, mais aussi le Seigneur, parce qu'il doit être juste et parce qu'il veut que son œuvre soit faite adéquatement, à l'occasion, le Seigneur nous parle aussi avec des reproches, avec des remontrances. Et quelle est l'attitude que je vais développer face à ces remontrances. Aujourd'hui, on y va encore un peu plus loin dans cet aspect, un peu moins réjouissant, quand le Seigneur nous fait des remontrances. Il nous dit, et je répliquerai, est-ce que je répliquerai après ma plainte? Répliquer, c'est le terme pour ceux qui prennent des notes, et vous êtes nombreux à le faire, le terme sub, S-U-B, toujours en hébreu bien entendu, répliquer, sub, S-U-B, retourner, qui veut dire retourner, qui veut dire tourner dos, qui veut dire revenir, donc s'être éloigné et revenir, ramener ou se détourner. Donc je répète, sub, S-U-B pour le terme, le verbe répliquer, et on va dire comme synonyme retourner, tourner dos à quelque chose, revenir d'un endroit, ramener, donc rapporter avec soi vers un endroit, et se détourner d'une chose ou d'un lieu. Le terme plainte, tokecha, tokecha, T-O-K-E-H-A, je répète, tokecha, T-O-K-E-H-A, qui nous parle d'un reproche, d'une punition, d'une réprimande, d'une correction et d'un châtiment. Au-delà de la question d'avoir un grief lorsqu'on porte plainte et lorsqu'on émet une plainte, c'est donc un reproche qu'on fait à quelqu'un. Et dans ce cas-ci, c'est effectivement un reproche. Habacuc attend la réponse de Dieu par rapport à un reproche qu'Habacuc a eu à élever à Dieu. Et ça, vous pourriez le lire dans le premier chapitre à partir du verset 12 à 17. Vous allez voir la complainte d'Habacuc. Ce même terme, tokecha, va être utilisé, le pasteur André en faisait mention dimanche, va être utilisé par Job lorsque Job va présenter sa situation à Dieu alors qu'il est en plein cœur de l'épreuve et qu'il va formuler donc un tokera, une plainte à Dieu par rapport à ce qui peut se passer dans sa vie. Et dans le cas d'Habacuc, dans le cas qui nous concerne, c'est que Dieu vient d'affirmer à travers Habacuc, son serviteur qui est un prophète, il vient d'affirmer qu'il va amener un jugement sur Israël et que ce jugement va se manifester entre les mains d'un peuple païen. Donc c'est comme si Dieu dit, je vais punir Israël pour ses méfaits et ses mauvaises actions. Et je vais amener la punition à travers un instrument qui est un peuple païen, un peuple étranger. Et Habacuc dit, mais Seigneur, comment tu peux utiliser un peuple qui est encore pire que ton peuple, un peuple qui est pire que la condition d'Israël pour venir châtier Israël? Donc c'est une plainte qu'il fait à Dieu, un genre de reproche qu'il apporte à Dieu. Et ce qui est fantastique de cette histoire-là, c'est que, un, ça nous permet de faire attention comment je m'adresse à Dieu, faire attention ce que j'adresse à Dieu, mais de surcroît à cela, un prophète, donc quelqu'un qui entend la voix de Dieu, quelqu'un qui sait reconnaître la voix de Dieu, et quelqu'un qui est un porte-parole pour Dieu, qui lui-même va sombrer dans les critiques par rapport à son maître et par rapport à son Seigneur. Donc ça doit être une mise en garde pour toi et pour moi. Quelle est mon attitude par rapport à Dieu lorsque Dieu fait les choses différemment de ce que j'aurais voulu? Quand il utilise un moyen qui est à mes yeux hors de sens, quelle est mon attitude? Est-ce que ma réponse est tout simplement un oui et amen? Ce que ça devrait être, en fait. Ou ma réponse, c'est de dire à Dieu, ben, tu devrais faire les choses différemment. Est-ce que je deviens conseiller de Dieu? Ou je suis simplement là en disant, Seigneur, ce que tu fais est parfait. Donc oui, ça nous sert d'avertissement, mais de surcroît à cela, ça nous permet aussi de réaliser qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri d'un faux pas et aucun d'entre nous ne doit se targuer qu'il ne tomberait pas dans une même situation. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que il a adressé sa plainte, il a fait un reproche à Dieu, Et pendant qu'il attend une réponse à cette plainte et à ce reproche qu'il a émis à Dieu, et il sait que la chose n'est pas bonne, mais malgré tout, il est encore à son poste et il sert. Et pour nous, ça doit être une leçon. Je vais relever quatre idées importantes dans cette condition, puisque la thématique reste et demeure pour nous cette semaine, être à mon poste. Ça veut donc dire que Habacuc, prophète de l'Éternel, sentinelle auprès de son peuple, il est quand même à son poste, même quand Dieu ne procède pas selon ses plans. Donc le premier point pour toi et pour moi ce matin, être à mon poste, même quand Dieu ne procède pas selon mes plans. Vous voyez, peut-être pas le cas de tous, peut-être simplement une petite partie d'entre nous, mais certains d'entre nous en ont une propension au boudage. Et certains d'entre nous, lorsque Dieu ne fait pas les choses comme on voudrait, on tombe dans cet état de bouderie ou de boudage, on se met à faire la babine et on met notre service sur pause. Habacuc était à son poste, Habacuc veillait à son poste, Habacuc continuait à remplir son rôle de sentinelle, même si Dieu, pour un moment, ne procédait pas comme Habacuc aurait voulu. Alors, quelle est ton attitude à toi lorsque Dieu ne fait pas les choses comme tu voudrais? Lorsqu'il n'utilise pas la technique que tu voudrais, lorsqu'il n'utilise pas le chemin que tu voudrais, lorsqu'il n'utilise pas la méthodologie que tu voudrais, quelle est ton attitude? Est-ce que tu te mets à bouder? Tu tournes le dos à Dieu? Et ici, c'est l'idée de répliquer. Du terme répliqué, tourner dos. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu tournes dos au service en te disant, je vais me rouler les pouces, comme ça, jusqu'à un certain point, je vais manifester mon mécontentement par rapport à Dieu. Je vais manifester mon mécontentement par rapport à ce que Dieu a décidé. Malheureusement, il y a des gens qui vivent une relation ainsi avec le Seigneur sur de longues périodes. Le Seigneur ne t'a pas accordé le boulot que tu espérais, tu boudes. Le Seigneur ne t'a pas accordé le modèle de voiture que tu espérais, tu boudes. Le Seigneur n'a pas encore envoyé la fiancée ou le fiancé, tu boudes. Le Seigneur n'a pas voulu que tu gagnes le million, tu boudes. Est-ce que c'est ça l'attitude qu'on a envers Dieu? Est-ce qu'on a l'attitude un peu comme Jonas? Rappelez-vous l'histoire de Jonas, c'est quand même particulier. La Bible nous dit que c'est un prophète, que Dieu l'envoie, Dieu se présente à lui, il lui dit, va jusqu'à Ninive et dis-leur que je vais répandre mon jugement sur la ville. Il reçoit cette parole claire, nette de la part de Dieu et il refuse d'y aller. Donc il tourne dos à la volonté de Dieu. Chemin faisant, on connaît tous l'histoire, la tempête, on le jette à la mer, et lui veut qu'on le jette à la mer pour qu'il meure et que ça arrête l'histoire. Ça n'arrête pas l'histoire. Effectivement, il tombe à la mer, la tempête se calme, un poisson vient l'engloutir, il reste dans le poisson 3 jours, et la Bible nous dit qu'après 3 jours, il se rappela de l'Éternel. Et il dit, j'étais presque mort. Ça, c'est paraphrasé. J'étais presque mort et je me suis souvenu de toi. Après 3 jours dans le ventre d'un poisson, si tu ne te rappelles pas que tu es miraculeusement vivant, hey, ça t'en prend sérieusement des choses. Il se repent, le poisson le crache sur la berge et il atterrit à Ninive. Mais à Ninive, il n'y est toujours pas de bon cœur. Il n'y est toujours pas en faisant le travail adéquat. La seule chose qu'il veut, c'est proclamer effectivement que Dieu va maudire la ville et que Dieu va châtier la ville. Alors il commence à faire son travail d'évangéliste, un très bon évangéliste à part de ça, parce que la Bible nous dit que la ville va se repentir. Et que Dieu, à l'écoute de cette repentance, va modifier son plan et va apporter la rédemption sur Ninive. Et là, on voit la vraie nature de Jonas qui dit, il va se réfugier sous un genêt et il se met à râler, il se met à se plaindre. Et Dieu dit, c'est quoi le problème? Il dit, voilà ce que je voulais éviter parce que je savais que tu étais un Dieu compatissant, lent à la colère et que tu pardonnerais dès qu'il se repentirait et je voulais éviter ça. Donc Jonas, au lieu de se réjouir qu'une grande ville soit épargnée, qu'une grande ville se repente devant l'Éternel, Jonas est en train de bouder. Il tourne le dos à Ninive, il tourne le dos à Dieu et il se met à bouder. Qu'est-ce que toi tu fais lorsque Dieu ne procède pas selon tes plans? Peut-être qu'on est très souvent, à l'instar de Jonas, des gens qui se mettent à bouder et qui ne sont pas utilisables pendant un certain temps parce qu'en train de bouder. Le deuxième point, qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu te fait un reproche? Parce que c'est une chose lorsque Dieu ne fait pas ce que tu veux, mais à l'occasion, et on l'a vu hier, les paroles que Dieu va prononcer à ton égard, c'est un reproche. Dieu va prononcer un reproche à l'égard de Jonas. Alors, qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu vient te dire, je ne suis pas content avec ce que tu fais, je ne suis pas content avec ce que tu es actuellement? Est-ce que là encore, tu continues à servir ou tu boudes et tu es inopérable pendant un certain temps? Habacuc était à son poste. Habacuc travaillait. Il arrive effectivement à l'occasion que nous servons et que Dieu vienne nous faire des reproches pendant notre service. Pourquoi? Parce qu'il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il a tout à fait raison aussi. Dieu ne nous lance pas des critiques vides de sens, c'est des critiques pour notre croissance, pour notre bien-être, pour notre bien. Mais très souvent, nous sommes comme ceux qui n'aiment pas entendre une critique à leur égard. Ils le prennent négativement et cessent de servir. Bon, mais si tu penses ça de moi, Seigneur, ben alors attends. Ben alors, puisque tu n'es pas content, Seigneur, oublie-moi. Plusieurs d'entre nous, on a cette attitude. Alors, quelle est ton attitude lorsque le Seigneur te fait une critique, t'apporte un reproche? Est-ce que tu es toujours en train de servir, où tu dis j'arrête de servir. Le jour où tu seras content avec moi, le jour où tu auras fini de me faire un blâme, à ce moment-là, tu me reverras dans ton service, mais d'ici là, oublie-moi. Certaines personnes, lorsqu'ils sont sous le feu d'un reproche de Dieu, cessent de travailler. Habacuc restait à son poste, éveillé. Troisième point. Et on pousse encore plus loin. Donc Dieu d'abord n'est pas d'accord avec toi. Deuxièmement, Dieu te fait un reproche ou un blâme. Troisièmement, qu'est-ce qui arrive de ton service lorsque Dieu te sanctionne? Habacuc fait partie du peuple d'Israël. Donc foncièrement, collectivement avec son peuple ou communément avec son peuple, Habacuc va être puni puisque son peuple va être puni. Alors, est-ce que Habacuc va rester à son poste? C'est le cas. Il est à son poste et il veille. Certains d'entre nous, lorsque la sanction de Dieu s'abat sur nous, on arrête d'être admissible au travail. On arrête de servir notre Dieu. On arrête d'être profitable pour le royaume de Dieu. Alors, quelle est ton attitude maintenant lorsque Dieu te sanctionne? Le premier point, c'était, est-ce que je suis à mon poste lorsque Dieu ne procède pas selon mes plans? Le deuxième point, est-ce que je suis à mon poste lorsque Dieu me fait un reproche? Le troisième point, est-ce que je suis à mon poste lorsque Dieu me sanctionne? Est-ce que je suis à mon poste même lorsque Dieu exécute un jugement à mon égard? Si Dieu te sanctionne, si Dieu te punit, je parlais dernièrement avec des parents concernant un de leurs enfants d'il y a des années et des années. Et je disais, mais quand cet enfant-là, maintenant c'est un adulte, quand cet enfant-là était puni à l'époque, on le voyait pendant 2, 3 semaines à bouder. On ne savait plus pourquoi, mais cet enfant-là boudait pendant 2, 3 semaines. Pourquoi? Parce que cet enfant avait été jugé et avait été sanctionné. En contrepartie, il y en a d'autres qui se font chicaner, en bon québécois, se font gronder, en bon français, pendant quelques instants. Ils subissent la sanction, puis 5 minutes après, ils reviennent à une vie normale parce que la chose a été jugée, sanctionnée, et maintenant on peut passer à autre chose. Quelle est ton attitude lorsque Dieu apporte un jugement? Vas-tu être là, hors service, pendant X nombre de jours, X nombre de semaines, en manifestant ton mécontentement et ta frustration envers la sanction qui était justifiée, parce que Dieu est un juste juge, qui était adéquate, parce qu'il est un juste juge, et qui était profitable, parce qu'il reste bon en toutes choses. Alors lorsque Dieu pose un jugement sur toi et lorsqu'il manifeste son jugement, lorsqu'il te sanctionne, es-tu encore opérationnel ou es-tu hors service? Dernier point pour ce matin, Habacuc est sur la tour. Il est en train de veiller. Il est en train de faire son rôle de sentinelle. Et Dieu lui dit, je vais amener le châtiment sur la ville. Et ce châtiment va arriver par tel pays ennemi, par telle peuplade païenne. Et Habacuc pourrait lui dire, mais alors Seigneur, qu'est-ce que je fais sur cette tour? Puisque de toute manière, ce peuple va venir nous sanctionner. Parce que tu es avec eux, parce que tu as donné ton droit à ce peuple de venir nous sanctionner, alors à quoi je sers? Il y a des gens qui ne servent pas lorsqu'ils ont le sentiment que leur travail n'est pas utile. Dans le cas d'Habacuc, ici, il servait malgré tout. Il était à son poste et il veillait, même s'il savait que peu importe la trompette qu'il sonnerait, que peu importe le travail qu'il ferait, la sanction de Dieu allait malgré tout tomber par les mains du peuple païen. Alors il pouvait dire, Seigneur, mon travail est inutile, alors je ne reste pas ici. Pensons à Jérémie. Jérémie, à qui Dieu va dire, et peut-être que je me méprends, mais il me semble que c'est Jérémie. Ça me vient à l'esprit là. Jérémie, à qui le Seigneur va dire, parle et ne te tais pas, parle même s'ils ne t'écoutent pas. Et parle parce que de toute manière, ils ne t'écouteront pas, mais je veux que tu proclames la chose. Ça veut donc dire qu'avant même que le prophète ne se mette à parler, Dieu lui a déjà dit, regarde, tu vas parler, mais ils t'écouteront pas. Tu vas parler, mais ils ne changeront rien. Mais moi, je veux que tu parles. Le prophète aurait pu se tourner vers Dieu en disant, mais là, je suis en train de perdre mon temps. Mon boulot est inutile. Parce que de toute manière, ils ne m'écouteront pas. Et le Seigneur dit, même s'ils ne t'écoutent pas, je veux que tu parles. Donc ça veut dire qu'il y a des occasions où notre travail, notre œuvre va nous sembler inutile. Et là, tu vas avoir un choix. Seras-tu encore à ton poste, même si tu estimes, toi personnellement, que ton ouvrage est inutile? Seras-tu à ton poste, même si les gens autour de toi estiment que ton travail est inutile? Pensez à Noé. Noé bâtit une arche. Pendant des années et des années, pendant des décennies. Et la Bible nous dit qu'à ce jour-là, il n'était jamais tombé une goutte de pluie sur la terre. Et Noé est en train de dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Dieu m'a dit qu'il va y avoir un déluge. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Dieu m'a dit qu'il va y avoir des pluies torrentielles qui vont tomber du ciel. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais Dieu m'a dit de bâtir une arche parce que ça va arriver. Jusqu'au jour où la pluie s'est mise à tomber, ce travail-là de Noé pouvait être considéré comme inutile de par Noé. mais aussi de la part du peuple qui l'environnait. Non, mais ce que tu nous racontes, c'est jamais arrivé. Jamais homme n'a vu pluie tomber sur terre. Et là, tu nous racontes qu'il y a de l'eau qui va tomber du ciel. C'est jamais arrivé. Tu fabules, Noé. Ce que tu fais est inutile. Et ton bateau gigantesque que tu fais, on sait tous qu'on est loin de la mer. Il est trop gros pour aller sur un ruisseau. Il ne pourra pas flotter. Et de la façon que c'est construit, c'est beaucoup trop lourd de toute manière pour flotter. Et Noé va dire, mais Dieu m'a dit de bâtir cette arche et il m'a dit de la bâtir comme cela et je bâtis cette arche comme il se doit. Et pourtant, son travail pouvait sembler pendant des décennies inutile. Alors, quelle est ton opinion de ton travail? Si tu penses qu'il est inutile, restes-tu malgré toi ton travail parce que Dieu t'a mandaté d'être là? Le pasteur André, je vais terminer là-dessus, nous donnait l'exemple de ce général qui va partir à la retraite le lendemain. Mais le jour avant sa retraite, il y a un escalier qu'on a repeint. Et il dit à un soldat, il dit à ses subalternes, « Placez-moi quelqu'un là-bas pour surveiller que personne ne monte par cet escalier parce qu'on vient de le repeindre. » Et le lendemain, il prend sa retraite et il quitte. Et il ne donne jamais un autre ordre pour dire d'enlever le soldat une fois que c'est sec. Donc le prochain qui arrive voit qu'on a appointé un soldat face à cet escalier et il dit, on va le maintenir. Et génération après génération, on garde un soldat pour garder cet escalier ou cette porte. Sans savoir pourquoi, un travail qui est inutile parce que personne n'emprunte cette porte, mais il est là. Et un jour, on se rend compte qu'on l'a fait parce qu'initialement, il y a quelqu'un qui nous a dit de préserver la peinture parce qu'elle était encore humide. Mais pendant des générations, il y a des gens qui se sont tenus à cette porte et qui ont gardé cette porte parce qu'un ordre avait été donné. Ce que Dieu fait n'est jamais inutile. On peut ne pas le saisir, on peut ne pas le comprendre, mais ce que Dieu fait est toujours parfait. Il y a des genres de choses qu'on appelle en mathématiques un axiome. Donc c'est une réalité qu'on ne prouve pas. 0 vaut 0 et 1 vaut 1. La base des mathématiques, c'est la base que 0 égale 0 et que 1 égale 1. Et on ne prouve pas que 1 égale 1 et que 0 égale 0. On prend ça pour acquis et on dit voilà la norme. La norme par rapport à la volonté de Dieu, c'est que cette volonté est parfaite et que cette volonté est utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc parfois tu vas avoir le sentiment de travailler de façon inutile, mais parce que Dieu t'a dit que tu devais te tenir là et que tu devais faire ce boulot-là, ce n'est pas inutile. C'est répondre aux ordres de Dieu. Un bon et fidèle serviteur fait son travail fidèlement et de la bonne manière, même s'il ne saisit pas pourquoi il devrait faire ce travail et ce que ça va porter. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que je dois être à mon poste, même quand Dieu ne procède pas selon mon plan. On a vu que je dois être à mon poste, même lorsque Dieu m'appose un reproche ou un blâme. On a vu qu'on doit être à son poste même quand Dieu nous sanctionne. Et enfin, on doit être à notre poste même si dans notre logique très limitée, dans notre intelligence très limitée, le travail qu'on fait nous semble inutile. Ou même lorsque l'ensemble de l'humanité pense que notre travail est inutile. Seras-tu à ton poste lorsque Dieu ne fait pas selon ton plan? Seras-tu à ton poste, en deuxième point, lorsque Dieu va te faire un reproche? Resteras-tu à ton poste même lorsque Dieu te sanctionnera, s'il a à le faire? Et enfin, resteras-tu à ton poste même si à un moment donné, tu as cette pensée que le travail que tu fais est inutile. Voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Prions. Seigneur, toute cette semaine, on a parlé d'être à son poste. Et aujourd'hui, on parle d'être à son poste dans des situations qui sont peut-être moins agréables que la norme. Être à mon poste même lorsque tu ne fais pas les choses selon le plan que j'aurais ou selon la pensée qui serait mienne. Seigneur, je veux te dire que je serai à mon poste. Je veux m'engager à être à mon poste, même lorsque les choses se font différemment que ma logique. En autant, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, je veux te dire que je serai à mon poste, même si tu devais me blâmer, même si tu avais un reproche à me faire. Je ne tomberai pas, Seigneur, dans cet état d'un boudeur qui te tourne le dos et qui dit « Tant que tu ne seras pas d'accord avec moi, je ne travaille plus, je ne sers plus. » Seigneur, je servirai même en temps de reproche. Seigneur, je veux te dire que je veux être à mon poste, même si je tombais sous ton jugement. Je veux que tu me trouves à mon poste, à œuvrer pour toi. Et enfin, Seigneur, je veux te dire que je veux être à mon poste, même si je ne comprends pas ce qui est en train de se faire, même si je ne comprends pas à quoi sert mon travail. Parfois, Seigneur, à l'instar de Jérémie, tu nous demandes de parler, de faire une chose, d'aller dans un endroit, même si aux yeux humains, il n'y a pas une réponse favorable ou profitable. Seigneur, même si mon travail me semble inutile, et même si l'ensemble de ma génération me disait que mon travail est inutile, parce que toi tu me le demandes, alors j'irai. Parce que toi tu me le demandes, alors je serai là où je dois être. Un peu, Seigneur, comme tes disciples et comme Pierre va te le dire lorsque tu lui dis, je sais que tu as travaillé toute la nuit, mais jette ton filet. Et Pierre qui va te répondre, Seigneur, on a pêché toute la nuit et on n'a rien attrapé. Mais parce que c'est toi qui me le demandes, alors je jetterai mon filet. Seigneur, ça serait inutile parce qu'on a pêché toute la nuit, mais parce que c'est toi qui me le demandes. Alors oui, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes et je jetterai mon filet. Et Seigneur, on sait tous la pêche miraculeuse qui s'est passée. Alors je prie, Seigneur, que ma sœur, mon frère et moi-même soyons à notre poste, demeurions à notre poste, même quand ça ne fait aucun sens. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Juste vous rappeler, les inscriptions ont toujours cours. Il reste 25 places pour l'assemblée de dimanche. Donc, on vous invite à profiter de cette occasion pour être avec nous pour l'assemblée de dimanche en présentiel. Donc, vous avez les instructions un peu plus bas dans l'écran de la page Facebook de l'Église. Vous avez les instructions pour vous inscrire, que ce soit par téléphone ou par courriel. Et on vous demande de le faire rapidement puisqu'il reste peu de place. Une première partie des appels a été faite hier par la sœur Patricia. Le restant va se faire par ma mère demain en fin de matinée. Donc, vous avez jusqu'à demain matin pour vous inscrire. Mais si on dépasse le 100, eh bien, on va devoir refuser des personnes. Donc, sur ce, on vous invite à vous inscrire et on vous invite à être là demain, vendredi 11 juin. Donc, ce sera une journée de jeûne et de prière demain. On sera là dès 8h30 et puis par la suite à 19h demain soir. Sur ce, servez bien le Seigneur, servez-le adéquatement, servez-le avec tout ce que vous avez et avec la bonne attitude. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.